C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford, construit avec fierté.
So I've gotten a 2-game suspension for cross-checking a guy in the back of the helmet. A full-blown, intentional cross-check to the face. 1 game.
Ouais, j'aime bien le « 2 matchs qu'il avait reçus comme suspension Hoffman quand lui-même avait asséné un double échec derrière la tête de quelqu'un, mais ça a coûté juste 1 match à Greer. On accueille sans plus tarder Maxime Lapierre. Salut Max.
Salut Mario, comment ça va?
Ça va très très bien. Est-ce que tu t'attendais, tu sais, je sais que de façon cynique, on va toujours dire oh, « un match, c'est beau s'il va y avoir un match », mais hier, j'avoue que c'était tellement direct d'en face que je me suis dit « écoute, 3. Hier, les gens me craquaient pour 5. Il y en a qui disent, oh ouais, moi, j'ai pas de trouble avec 10, mais 1. Écoute, c'est une joke?
Ouais, c'est une joke, surtout quand tu vois les dommages, là, puis la vidéo comme ça, c'est quand même assez grave là, dans le visage comme ça. Tu sais, c'est qu'on a tellement souvent des réponses différentes de la part de la Ligue nationale de hockey. Des fois, c'est le joueur et son dossier. Est-ce qu'il a des antécédents? Est-ce que la situation... C'est toujours différent, Mario, tu le sais. Pour moi, c'est le but, il reste que ce soit un coup de bâton, un coup de coude, un coup d'épaule, un coup de poing, c'est de protéger la tête des joueurs de la Ligue nationale de hockey. On est toujours en train de dire que c'est ça le plan de protéger les joueurs, leur santé après leur carrière et tout ça. Tu peux pas avoir un coup plus dans le milieu de la tête que ça, là. C'est le visage, mais c'est la tête. Les dommages qu'on voit en ce moment, c'est une coupure au menton, mais on s'entend que ça résonne au cerveau aussi là, pendant quelques jours lorsque tu reçois un coup de la sorte. Ça aurait dû être plus qu'un match selon moi. T'sais, faut pas exagérer non plus. Je pense pas que c'était 5-10 matchs, là, mais c'était 3 matchs selon moi. Puis il y avait pas c'est pas le bon call. C'est tout. Je trouve pas que c'est le bon call. La seule chose que je peux dire, par contre, si je veux être honnête dans ma description des faits, c'est que Hoffman il a quand même un peu cherché avec son petit coup de bâton, puis lui aussi essayer de donner un double échec, mais c'est pas une raison pour pas suspendre.
Mais c'est pas lui qui l'avait commencé.
Non, je sais, mais il était engagé dans cette chicane-là, mettons, là, mais c'est juste que le geste de Greer est un petit peu plus grave.
Admettons qu'on applique la même logique, là, puis qu'il y a une caméra vidéo à l'entrée d'un dépanneur ou d'un pas loin d'un garage qui nous filme, là, Max, là, puis... Il y a quelqu'un qui prend un bâton puis qui assène le même coup de bâton au visage de quelqu'un. Je sais pas comment il s'en sort à court.
Ouais, c'est une bonne question. Il s'en sort probablement pas bien. c'est pour ça que nous autres, notre façon de gérer ce discours-là dans le monde du hockey, c'est de protéger la tête des joueurs. Tu sais, on voit toujours des choses puis on dit que c'est moins grave parce que c'est sur une patinoire. C'est pas moins grave. Le physiquement, c'est la même douleur.
Qu'est-ce que tu as pensé de Brad Marchand? Tu sais, si on élimine tout ça, les cas de discipline, Marchand qui saute sur Pitlick, t'as-tu mérité lui aussi?
Oh, mais là, ça, c'est du grand Brad Marchand. Puis, tu sais, je vais un peu dévier du sujet. Là, ce que tu me dis, c'est tout ce qui est arrivé hier, pour moi, ça arrive peut-être pas si Jacquard est dans l'alignement. Tu sais, on parle toujours d'enlever les bagarres puis tout ça, puis on respecte la nouvelle mentalité puis la réalité, mais quand t'as un gars comme Jacquard, il me semble que ça arrivait pas très très souvent en début de saison, lorsque tu sais que tu pourrais faire face à un joueur que lui aime ça, puis il vit que de ça, des matchs avec beaucoup d'émotions, du jeu physique, des bagarres. Si t'en as un autre du style à Jacquard à l'attaque l'an prochain, je peux te dire que les Blues de Boston font pas ce qu'ils ont fait hier, ça je peux te le garantir. Comme l'époque où on avait Chara et Lucic, les équipes faisaient rien aux Bruins de Boston parce qu'on avait peur d'eux. Donc, pour moi, c'est de bien balancer les choses. Le geste n'a pas lieu, mais en même temps, faut jamais sous-estimer que des joueurs qui jouent un style physique dans la Ligue nationale de hockey, ça protège les joueurs étoiles, ça protège les plus petits joueurs. Puis Nick Suzuki en a fait mention, je pense, plutôt dans le mois. Il avait dit que c'était important dans une carrière. Lui, il a vécu ça, qu'il y a des choses que lui n'est pas capable de faire de ce côté-là. Puis il y a eu beaucoup d'aide dans sa carrière de joueurs qui sont capables de justement de jouer un style robuste.
J'ai jamais aimé chialer après les arbitres. Ça m'a toujours horripilé. Mais c'est vrai qu'hier, c'était vraiment pas fort. Mais qu'est-ce que t'en as pensé? Toi, t'es-tu aimes-tu ça, chialer après les arbitres? T'es-tu indigné contre leur travail? Il y a beaucoup de gens en texto qui nous écoutent en ce moment en direct qui disent ouais. Combien de coups salauds les Blues ont-ils donné sans pénalité hier?
Ouais, ils en donnent beaucoup. Puis tu sais, ça, je pense que c'est un rythme ou une tolérance qu'on établit en début de match. Tu sais, il y a des arbitres qui laissent beaucoup aller, il y en a d'autres qui en laissent moins aller. Puis c'est ça le problème. Tu sais, puis t'as tellement raison, c'est plate parce qu'on comprend que c'est un match qui est rapide, le jeu évolue. C'est beaucoup de travail pour un arbitre. C'est impossible d'être parfait parce que tu sais, Mario, la réalité là, je pense qu'il pourrait avoir une punition sur chaque jeu dans la Ligue nationale de hockey. Là, en partant avec les mises au jeu, tu fais juste regarder tout ce qui se passe. Tu pourrais avoir le bras dans les airs toute la soirée. Mais la réalité, c'est qu'on y va un peu avec notre feeling du côté des arbitres, puis de mm-hmm. voir comment le match va se dérouler. Je suis déçu des fois cette année. Je vais être honnête, il y a des matchs que je regarde, je suis déçu, que ce soit des punitions pour avoir accroché le gardien de but, des buts refusés et tout ça. Je trouve qu'on manque de constance, puis c'est plus ça le problème pour moi. C'est quoi, comment qu'on veut arbitrer dans la Ligue nationale de hockey? Ça devrait pas être différent. Chaque match, chaque équipe dans différentes villes, selon l'arbitre qui est, puis quel soir de la semaine, ça devrait toujours être de la même façon en saison régulière, en série. Puis on se cachera pas que c'est pas la même affaire. Jamais, c'est jamais la même affaire en saison, en série ou lors des matchs qui comptent un peu plus. C'est pas vrai ça. Là, faut arrêter d'essayer de jouer. On est tous gentils, puis les arbitres sont bons, puis sont fins. Ils sont pas toujours bons, ils sont pas toujours fins, puis ils font pas toujours leur travail.
Lâche-toi lousse. Et tu vas me permettre de me déjeuner un peu moi aussi, Max. Tu m'influences. Écoute bien. Bon, Marc, il nous écrit. Et je pense que ça m'était adressé parce que ça faisait suite à mon intro, tu n'avais pas eu le temps de dire un mot encore, fait que je vais l'assumer. Il dit « Commencez par dénoncer les bagarres dans la LNH. Votre petit laïus contre la violence sera plus crédible. » Salutations, Marc, merci d'être à l'écoute. D'abord, j'ai pas eu de petit laïus contre la violence. J'ai juste eu une réaction un peu surprise sur le bord d'être semblant d'indigné que ça soit juste un match pour Mike Hoffman. Puis d'autre part, je ne dénonce pas les bagarres parce que je suis pour les bagarres dans la Ligue nationale. C'est-tu assez clair? Alors, ça fait pas de moi un apôtre de la violence. Le débat qui concerne les bagarres, là, ça concerne le junior, le midget, les jeunes de 17 ans qui se battent contre des 21 ans. Dans la Ligue nationale de hockey, ça m'empêchera jamais de regarder le hockey si on les abolit. Mais en ce moment, je suis encore pour les bagarres. Toi, Max?
Ouais, je suis d'accord avec toi, t'as raison. Je pense que c'est un peu comme tout dans la vie, là. Peu importe sur quoi on chiale ou ce qu'on veut décrire, c'est juste de séparer les morceaux un peu. Là. C'est pas aussi simple qu'on n'a pas de bagarre au Québec, dans la Ligue junior majeure, puis il n'y en aura pas dans la Ligue nationale, puis là, il faut que ce soit comme ça partout dans le monde. En Europe, ils ont leur façon de gérer. C'est différent. Puis pour moi, t'as tellement raison dans ce que tu dis. Je vois-tu pleurer s'il y a plus de bagarre? Non, ça me dérangera pas. J'aime le beau hockey, moi aussi. Mais je pense que le hockey, avec de la passion, avec des bagarres de temps en temps dans la Ligue nationale de hockey. Puis je veux pas dire des bagarres, là, tout le temps, au centre de la patinoire. Puis c'est deux gars qui jouent 3 minutes par soir, qui se battent pour, tu sais, ça m'intéresse peut-être un peu moins. Mais des bons joueurs qui sont dans le feu de l'action, la passion sort. Puis les partisans, peuvent pas mentir, ils sont debout à l'aréna, puis ils crient, dans plusieurs amphithéâtres de la Ligue nationale de hockey lorsqu'il y a un combat. Maintenant, t'as tellement raison, les 16-17 ans, c'est pas la même affaire pour moi. T'es à l'école, t'as des études, t'es pas à la même place dans ta vie, t'es plus jeune, t'es moins fort physiquement, moi je considère que t'es plus à risque tout simplement avec ta force physique à cet âge-là. Puis pour le commentaire de la personne que t'as reçu, c'est comme comparer un boxeur qui est lui, il se bat, mais avec sa chaudière qui est dans le coin pour le deuxième round, il arrive avec la chaudière puis il donne des coups avec sa chaudière, c'est pas la même affaire qu'avec ses gants. Tu sais, je compare ça avec une bagarre au hockey puis un coup de bâton, c'est vraiment pas le même domaine selon moi.
Maintenant, je passe à d'autres sujets et commençons par l'enthousiasme quand même. Martin Saint-Louis débordait de positivisme hier après son match contre le match du Canadien contre les Blues de Boston. Ils ont dominé au chapitre des tirs. Premièrement, es-tu aussi enthousiaste que lui? Et est-ce qu'il y a un leurre de... Tu sais, il y en a que ça agace de voir qu'on est aussi de bonne humeur alors qu'on perd des matchs.
Ouais, ben ça, tu sais, je comprends que tout le monde veut que le Canadien gagne là, puis c'est normal, là, c'est notre équipe, on est fiers puis tout ça, mais pour moi, c'est juste de vraiment comprendre le plan, que ça va prendre du temps. Je pense que Kent Hughes l'a dit dans les dernières semaines aussi, qu'on n'est pas pressé, puis ça prendra le temps que ça prendra. J'aimerais bien évidemment avoir des transactions dans le style Romanov-Doc pour accélérer les choses, mais on peut pas être chanceux comme ça à toutes les transactions. Puis pour moi, c'est je pense que Martin Saint-Louis, c'est l'homme idéal. Tu sais, plusieurs personnes, parfois, ont des commentaires disant qu'il y a pas mal trop de bonne humeur après une défaite. Pour moi, c'est l'homme idéal, tout simplement, juste à cause de ça. Tu sais, t'as des jeunes joueurs, tu veux qu'il y ait une ambiance. Tu sais, l'ambiance est créée par les membres de l'organisation. Hein. Si tu décides que t'arrives de fâcher à l'aréna parce que t'as perdu, ben tout le monde va être fâché, puis ça va être ça, ton ambiance dans le vestiaire, où tes jeunes vont grandir, où ils vont apprendre à se développer, ça va être plate d'aller à l'aréna le matin. Par contre, c'est de faire comprendre à ces jeunes-là que c'est pas parce qu'on est de bonne humeur qu'on sourit, qu'on met pas nos bottes de travail, puis qu'on travaillera pas plus fort après une défaite pour essayer de restructurer les choses, de mieux jouer défensivement, d'améliorer nos qualités personnelles en tant que joueur. Puis je pense que ça, on le fait cette année. Tu regardes l'évolution de tous les jeunes joueurs dans l'organisation. Malgré le côté négatif des défaites, ben les jeunes joueurs évoluent. Ils continuent à évoluer tranquillement, puis parfois ça passe inaperçu justement puisqu'on joue contre des équipes plus fortes où le pointage final fait qu'on est plus concentré sur le négatif. Mais si on regarde qu'on est concentré sur nos jeunes qui sont notre futur puis qui font partie du plan, moi je pense, désolé l'expression, mais on est en business.
Daniel Sauvageau prédisait plus tôt cette semaine que le Canadien sera de retour en série dans 3 ans, incluant cette année. Donc, cette année plus 2. Je te le demande, prédiction de Maxime Lapierre. Le Canadien reviendra en série dans?
Je vais donner une réponse plate, mais dans, ça dépend de les acquisitions qu'on va faire cet été. Je pense que ça peut aller plus vite qu'on pense. Il y a des joueurs qui m'ont impressionné, puis ça commence par Cole Caulfield. Oui, je savais que c'était un marqueur de but. Est-ce que j'étais prêt à le voir marquer aussi rapidement, aussi souvent dans la Ligue nationale de hockey? Je pensais que ça allait prendre pas mal plus de temps que ça. Est-ce que Kirby Dach, on pensait qu'elle allait être aussi dominant? Non, ça, je pense pas. Puis est-ce qu'on pensait que Jack Hyde puis ces joueurs-là, est-ce qu'on pensait que Matheson allait être dominant comme ça? Tu regardes vite, si on est capable de faire des grosses acquisitions avec les joueurs qui partent, des joueurs qu'on va perdre, des vétérans qui jouent peut-être pas de la bonne façon, pour des vétérans et des jeunes joueurs aussi qui vont jouer de la bonne façon. Je veux pas dire qu'on va faire des séries l'an prochain, mais je peux dire qu'on va commencer à avoir des matchs d'importance dans la saison, ou peut-être qu'à un moment donné dans la saison, on va se battre pour les séries, mais pas l'an prochain. L'année d'après, selon moi, on va être capable.
OK, donc, dans 2 ans, tu viens de nous faire gagner une année sur le plan de Daniel Sauvageau.
J'ai accéléré ça, puis c'est pas juste pour aller contre Daniel, c'est juste, c'est 2 ans, 3 ans, ça fait du sens, mais ça fait juste, ça dépend vraiment des acquisitions. Si on est capable de tirer des bons agents libres, un bon mix de jeunes, si Montembeau continue à évoluer de la sorte dans le filet, il est confiant. Tu sais, Mario, ça, on en a vu des équipes qui avaient pas rapport en série, puis ils sont allés tout simplement parce que la chimie était bonne, la structure était bonne, tout fonctionnait, c'est une bonne saison, tout le monde est en santé. Moi, je pense que ça peut arriver. Tu sais, je compare l'année où on est allé avec Yaroslav Halak, on est allé loin en série, on avait un bon petit club, mais on avait des bons vétérans qui venaient d'arriver, mais je pense pas qu'on avait une équipe pour tout casser, puis on a réussi quand même à accomplir quelque chose de merveilleux, donc... On ne sait jamais dans le sport.
Tu as raison. Puis entre toi et moi, c'est déjà arrivé d'ailleurs à d'autres équipes. T'sais, une équipe peut faire les séries une année, les rater les 2 suivantes, puis revenir avant que le gâteau soit complètement prêt. C'est pas impossible, ça non plus, Maxime. Là.
Exactement. Mais la chose qui est certaine, que je trouve très, très importante de mentionner, c'est que Kent Hughes, par contre, il va pas accélérer le processus pour faire les séries. Il va continuer à suivre son plan. Lui, il a un plan en tête qu'on connaît pas. On va s'entendre là-dessus. Il sacrifiera pas un jeune pour peut-être finir 8e l'an prochain puis entrer en série par la porte en arrière puis se faire sortir en 5-6 lors de la première ronde. Ça sera pas ça. Il faut pas penser que Kent Hughes va accélérer rien pour faire plaisir aux gens.
En terminant, Maxime, sais-tu que si le Canadien avait des gars capables de gagner des mises en jeu, je serais peut-être tenté de te dire qu'ils vont les faire l'an prochain. Et une des acquisitions pourrait concerner la position de joueur de centre, parce que deux de nos plus beaux joueurs, deux des joueurs qu'on apprécie le plus, Suzuki et Dach, c'est pas des champions aux mises en jeu, même si Suzuki s'améliore, là, mais Dach a du chemin à faire.
Ouais, ben c'est une priorité dans l'organisation avec le talent que ces deux jeunes-là ont. Puis je suis sûr qu'on y pense déjà. Il faut améliorer nos pourcentages de mise en jeu. Je pense que Kirby Dach est environ à 39% en carrière. Nick Suzuki, c'est du 45-47%. C'est pas assez pour les missions qu'on va donner à ces joueurs-là qui vont toujours être à la patinoire. Tu sais, à deux, là, ces gars-là, là, c'est entre 40 et 44 minutes qu'on va jouer sur la patinoire par soir. Tu peux pas te permettre de jamais commencer avec la rondelle. Ça te nuit en avantage numérique. C'est juste là, tu tues un 20 secondes en perdant la mise en jeu en zone offensive, en avantage numérique. Les chances de créer de l'offensive, les chances de bien défendre puis de sortir de ton territoire rapidement, on peut pas faire ça. Faut absolument engager, je te dirais, une personne en charge de ces deux joueurs-là, mais toutes les centres, dans le fond, puis juste se concentrer là-dessus à tous les jours, parce que c'est des choses qui s'apprennent. C'est un mix de force physique, de structure, de mathématiques, d'angle et puis de positionnement des patins et de lecture vidéo sur l'adversaire. Tout ça ensemble, c'est beaucoup de travail. Par contre, Mario, ça, je peux te le garantir que c'est pas aussi simple qu'une rondelle qui se fait jeter par terre puis le premier qui met son bâton dessus le remporte. Là, c'est vraiment pas ça. Il y a une science derrière ça. Puis je pense qu'il faut prendre ça au sérieux. Faut pas sous-estimer et juste dire ben c'est juste des mises au jeu. Il faut travailler là-dessus.
Ouais. Au pire, ils font appel à Max et Carbo pour aller donner des petites séances, des petits ateliers comment gagner des face-off en toute situation. Je pense que ça pourrait faire du millage, ça, pourquoi pas?
Ben, Carbo, 100%. C'est un gars qui était spécialiste. Il me l'a montré à moi. J'ai appris de très, très bons joueurs aussi. Un gars comme Manny Malhotra. Je me rappelle, moi, quand... Tu vois, Mario, moi, quand je suis rentré dans
Yannick Perrault.
La première chose qu'on a fait quand je suis rentré dans la Ligue nationale de hockey, on m'a donné un DVD de Yannick Perrault pour on m'a dit de regarder toutes ses mises en jeu. C'est Mario Leblanc qui m'avait donné ça, puis je l'ai fait, puis j'essayais de faire ce qu'il faisait, puis ça m'a aidé dans ma carrière.
Alors, à bon entendeur, donnez une vidéo des mises en jeu de Yannick Perrault à Suzuki puis Doc, puis d'après moi, on va gagner peut-être un an. C'est à 3,5 millions de revenus par match en série. Ah ouais, la vidéo tout de suite!
Je pense même pas que c'est un DVD, j'avais, puis je pense que c'est un VHS. Je pourrais pas l'envoyer à Nick puis Kirby.
Ouais. Invite la maison puis montre-leur que t'as encore un VHS qui fonctionne.
C'est ça.
Merci beaucoup, Maxime. Excellent. Bonne fin de semaine. À la semaine prochaine.
Salut, Mario.
Bye-bye, Max. Bye. On revient dans un instant.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Vous le devinez, alors que la période des séries éliminatoires approche autant dans le hockey junior canadien que dans la Ligue nationale, ben c'est une période d'observation qui s'intensifie pour les dépisteurs tout calibre confondus. Et c'est le cas des dépisteurs, évidemment, de la Ligue nationale. Avec nous, ils travaillent pour les Prédateurs de Nashville depuis un bon bout de temps déjà. Nul autre que Jean-Philippe Glaude, qui est avec nous en tournée quelque part en Ontario. Jean-Philippe, bonsoir.
Bonsoir, Mario.
Dans l'œil du dépisteur, là, est-ce que tu vois des choses chez des jeunes à ce stade-ci de l'année que tu n'avais pas vu, par exemple, en novembre ou en décembre, de par l'intensité des matchs, ceux qui vont plier les chines, puis d'autres qui vont peut-être ressortir alors qu'ils n'étaient pas ressortis auparavant?
Ben, tu sais, je te dirais que à ce temps-ci de l'année, puis tu sais, je le mentionne souvent dans les discussions, c'est que le calendrier hein, pour ces joueurs-là, est quand même difficile. Là. On parle de 60 de matchs, les entraînements, l'école, les voyages, les déplacements. À ce temps-ci de l'année, contrairement à ce que tu peux voir en octobre, tu vas peut-être avoir un indice sur le niveau de fatigue. Puis tu as des jeunes, puis on parle avec les entraîneurs, évidemment, on parle avec des gens autour de ces jeunes-là. Puis ben, tu as des jeunes qui prennent soin, entre guillemets, là, qui vont prendre soin d'eux. La discipline hors glace, moi, c'est un point qui est pour moi qui est primordial dans l'évaluation. Puis ben justement, tu sais, tu vois des jeunes qui t'as l'impression qu'ils sont encore au mois d'octobre, qui ont une énergie, qui sont compétitifs, qui ont vraiment pédale au plancher, qui jouent de la même manière. Puis t'en as d'autres que tu sens un peu plus de un petit peu de fatigue, puis l'éthique de travail est peut-être moins là, puis un petit peu moins acharné sur les détails. Mais tu sais, je me mets dans leur peau, puis je le comprends très, très bien. Donc ça, c'est peut-être un élément qui, à cet instant-ci de l'année, peut quand même ressortir.
Ouais, puis d'ailleurs, tu me fais penser en disant ça au propos de Stéphane Julien qui commentait la performance de Joshua Roy contre Gatineau cette semaine. Joshua qui a marqué le but gagnant. Puis Stéphane s'étonnait du niveau de performance de Joshua parce qu'il en a joué du hockey, lui-là, dans les deux dernières années. Je ne sais même pas s'il y a eu quelques semaines de break en ligne, considérant deux championnats du monde. Alors, effectivement, oui, il y a de la fatigue qui s'installe. Mais j'étais curieux de savoir, Jean-Philippe, c'est un commentaire de Martin Saint-Louis qui m'a donné envie de parler à un dépisteur, qui m'a donné envie de te contacter. Parce que Martin commentait le jeu des Bruins de Boston puis de Patrice Bergeron, puis réfléchissait à voix haute sur le fait que, ben, tu sais, qu'est-ce qu'on voit ou qu'on ne voit pas, Patrice n'ayant pas été un choix de première ronde, même si c'est un joueur de concession depuis tant d'années. Il dit, ben, peut-être que lui, il y a de quoi que, tu sais, l'intelligence au jeu, ce qu'on appelle le fameux IQ ou le QI hockey, c'est peut-être quelque chose qui est plus facile ou plus difficile, pardon, plus subtil à déceler pour un gars qui... Tu sais, quand quelqu'un est flamboyant sa glace, tu t'attends peut-être pas au QI hockey, tu découvres peut-être deux ans plus tard qu'il n'est pas fort le QI hockey, mais qu'il patine comme le vent. Mais j'étais curieux de te demander, qu'est-ce qui est le plus difficile ou subtil à déceler chez un joueur de hockey, Jean-Philippe Glaude?
Ben écoute, là, ton intro est excellente. T'es direct sur le target, là, tu sais, dans le sens que on pourrait mettre 10 hommes de hockey compétents, hein. 5 entraîneurs, 5 GM, puis je vais rajouter un 5 scouts, entre guillemets. On regarde un match de hockey, puis on évalue 5 joueurs. On se rassoit, puis nous, à Nashville, on le fait. Quand on fait notre tournoi des recrues, on se rassoit après, on évalue. Puis écoute, ça va partir dans tous les sens. Sur en particulier le point que tu as mentionné, le hockey centre. Parce que vitesse, habileté individuelle, physique, il est tough, il est pas tough, bon, il compétitionne dessus. Bon, ça, à l'œil nu, on le voit rapidement. Tu sais, j'ai pas besoin, entre guillemets, d'être un scout, puis je veux dire, tu t'assois dans les estrades d'un gars qui lance fort, qui est physique, tu le vois. Mais le fameux hockey sense, c'est pas concret, puis c'est excessivement difficile à cibler. Puis je te dirais encore plus loin que ça, chez nous, là, tu sais, les recruteurs au niveau junior majeur, je te dirais que c'est encore plus difficile parce que, ben, je veux dire, c'est subtil. T'as des jeunes qui sont physiquement plus développés, donc ils ont une belle vitesse, donc peut-être qu'ils ont moins besoin d'utiliser leur hockey sense. Tu sais, je sais que t'as un garçon qui a joué, puis je suis sûr que jeune âge, il y a des jeunes rapidement, ils se démarquent par leur vitesse, leur habileté. Donc t'es pas capable de savoir y a-tu du hockey sense ou pas. Parce que moi, je dis tout le temps, c'est quoi la différence entre un match atome puis un match à Ligue nationale? Ben, c'est l'espace sur la glace qui est réduit et c'est sur la grandeur, grosseur des joueurs. Donc, qu'est-ce que tu dois amener à ton match? C'est de penser plus rapidement. Donc, ça, c'est le hockey sense. Donc, c'est très, très subtil. Puis, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est toujours quelque chose que je vais me fier sur certains points. Niveau d'anticipation. Il y a des jeunes qui sont capables de ralentir le jeu, regarder ce qui se passe, avoir la tête haute, placer des rondelles dans les espaces libres, se démarquer, prendre des bonnes décisions. Donc, ça, c'est subtil, mais définitivement, dans mon critère à moi, dans mes critères, le hockey sense va rester et sera toujours le numéro un.
Puis j'ai envie d'ajouter au degré de difficulté le fait que quand tu épies des jeunes, par exemple, dans les rangs juniors canadiens, ils se mesurent là dans leur année 18 ans, des fois ils l'ont pas eu encore là au moment où tu les vois jouer, ils se mesurent à des bons joueurs, des premiers trios des adversaires, des gars de 18, 19, parfois des 20 ans. Fait que t'es-tu capable de l'identifier, ça, cet élément-là? Réussis-tu avec ton expérience puis à force d'affûter ton regard, JP, tu réussis-tu à réduire ta marge d'erreur, quoi qu'il y en aura toujours une, là?
Ouais, exact. Mais tu sais, c'est comme dans n'importe quoi, hein. T'as des bons professeurs, t'en as des moins bons, t'en as des mauvais. Donc, j'imagine que t'as des bons recruteurs, t'en as des corrects, t'en as des mauvais. Tu sais, j'exagère en disant ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'à quelque part, c'est notre job. Puis c'est de déceler ça, puis c'est d'être capable de le voir, de l'anticiper. Mais c'est sûr qu'on va se tromper, tu sais. Je veux dire, il y a des jeunes qu'on a poussés des fois, puis tu réalises que pour plein de raisons, ben, ça peut être un élément. Puis je vais t'amener même sur un autre élément. Puis récemment, j'en parlais avec mon recruteur-chef de dire que t'as des jeunes qui, exemple, vont être super athlétiques. T'sais, ils vont être 6 pieds 1, 6 pieds 2. Puis j'ai quelques cas en tête, je n'aimerais pas les noms évidemment, mais tu sais, belle habileté, bon lancer au but. Ils font tout bien, puis tu sais, là, wow. Mais manque de constance, puis manque de detail. Tu sais, la partie détail de leur match est pas nécessairement bonne. Ça, pour un recruteur, ça aussi, c'est très, très risqué parce que, oui, les habiletés, t'as le goût de dire, c'est un top 2, tu sais, un top 2 round, là. Puis finalement, tu le prends, mais là, après ça, c'est est-ce que ça va cliquer? Parce qu'il faut pas oublier, là, il a 17 ans, 18 ans, là, tu sais, il va être repêché à 18 ans, il est très, très jeune. Puis là, tu te croises les doigts, tu t'espères vraiment, est-ce qu'il va cliquer sur cette partie-là de sa game? Est-ce qu'il va plus appliquer des tailles? Puis t'as des jeunes qui jamais vont cliquer, puis t'en as d'autres, une minorité, je vais dire, vont être capables de cliquer. C'est pour ça que des fois, tu dis, wow, quel choix, puis à l'inverse, mon Dieu, on s'est trompé. Pourtant, il a toutes les habiletés. Donc, tu sais, c'est encore, je reviens au nom, entre guillemets, concret. C'est quand c'est pas concret à l'œil nu, c'est des façades qui sont plus difficiles pour les recruteurs.
Là. En terminant, Jean-Philippe Glaude, dépisteur des Prédateurs de Nashville. Bon, ça a été quand même une année intéressante pour le terroir québécois l'an passé. C'est moins le cas cette année. Peux-tu me confirmer ça?
Oui, je te le confirme. J'espère qu'honnêtement, on va avoir des surprises. Tu sais, des fois, des équipes qui, avec des recruteurs, vont pousser un peu nos jeunes, mais force est d'admettre qu'actuellement, à première vue, ça risque d'être un petit peu plus tranquille qu'à l'habitude.
Jean-Philippe Glaude, un gros merci de cette conversation puis bonne soirée de hockey.
Merci Mario, bonne émission.
Merci beaucoup. JP Glaude, des Prédateurs de Nashville.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
C'est-tu trop rock pour vous autres, ça, les
non,
gars?
Non, 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 j'adore ça.
T'adores ça, Jerv?
Yes.
Steph, ouais.
Oh, c'est bon, c'est
alors,
bon.
Accueillons sans plus tarder notre ami Antoine Roussel. Salut Antoine, comment ça va?
Salut, ça va super bien. Bonsoir, messieurs.
Salut.
Salut Antoine. Antoine, bon vendredi soir. Bon vendredi soir. Le temps des sucres ne t'épuise pas trop, mon cher, à ta cabane à sucre.
Pas encore, parce que ça a coulé un petit peu la semaine passée. Et tu sais bien que l'excitation était à son comble à ce moment-là. Et donc, moi, je pensais qu'on allait décoller la saison. Puis, le Nord étant ce qu'il est, le Saguenay étant plus au Nord, et on a des refroidissements. Et donc, ça a ralenti tout le système. Et donc, cette semaine, ça n'a pas coulé. Et j'anticipe que depuis peut-être demain et la semaine prochaine, ça va se décoller. Et puis, on va pouvoir commencer à faire du bon sirop d'érable. Puis c'est quelque chose que je suis vraiment excité parce que c'est ça le Québec, c'est ça le fait aussi d'être le sentiment d'être québécois, ben c'est de produire, faire des choses comme ça, puis d'accueillir du monde parce que aussi on produit sur des rames, mais on reçoit à peu près 500 personnes par jour de la fin de semaine pour le brunch de la cabane à sucre. Donc on a de la broue dans le toupette.
Si t'étais pas guichet fermé, Antoine, là, je te dirais, quand est-ce qu'on s'en va faire un choix à cabane à sucre, Antoine? L'électricité et l'Internet se rend?
Ah oui. Ah oui. Hey, les gars, vous êtes le bienvenu pour en vendre.
On peut passer la semaine là.
Ouais, mais c'est parce que nous autres, tu sais quand on va arriver, mais tu sais pas quand on va repartir, Antoine.
Ben, les gars, moi, c'est déclaré. Là, j'adore ça parce que vous savez quoi, si vous savez pas quand vous allez partir, je vais vous trouver de quoi en faire, ça sera pas trop compliqué non plus.
Hey, y a rien comme travailler dans le bois, là. Y a sûrement un petit peu des mondages, puis du ramassage, puis du brûlage de branches à faire. Fait que des petits jobs de même, là. Tu sais, des jobs que personne veut faire, là. On va s'occuper de ça.
Tu ris, là, Mario, tu ris, mais quand j'ai investi dans une cabane à sucre, moi, je pensais, un peu comme tout le monde, que le temps des sucres, c'était sporadique, puis c'était pendant seulement 8 à 10 semaine par année. Mais figure-toi que je tombais en bas de ma chaise. C'est à l'année, tout ça. Faut travailler dans le bois, faut préparer des choses. C'est long. C'est de la peau. Puis c'est là que tout le respect que j'ai pour les acériculteurs, puis le monde qui écoute nous en ce moment, ben je les invite à aller rencontrer leur érablière locale, puis aller à chercher le produit à la ferme, parce que ça aide tellement les producteurs en ce moment quand les gens font ça. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup de travail pour quand tu t'achètes une canne à l'épicerie, tu te dis maudit que c'est facile à ramasser, mais c'est il y a de l'huile de bras pas à peu près dans une canne de sucre.
C'est rendu le monde à l'envers. Les Français font du sirop d'érable puis les Québécois font du vin, à ce temps.
pas vous.
Une chose est sûre, on le déguste des deux côtés, oui, de la même manière, et avec, on l'apprécie aussi.
C'est ça, quand c'est bon, ça n'a plus de frontières. Antoine, on s'entend-tu que, qu'est-ce qui est le plus difficile à mâcher quand on va à cabane à sucre? Je pense que c'est les oreilles de Chris ou quoi? C'est quoi
Je suis d'accord, et puis moi, je suis pas vraiment un grand fan d'oreilles de Chris. Je sais que ça fait partie de la tradition.
Mais d'après
on
moi,
à la cabane,
c'est-tu quoi, Antoine?
Je suis pas un grand fan.
Ce que je voulais dire, c'est que d'après moi, si t'en donnes une à Mike Hoffman, il va avoir de la misère à manger.
Pauvre. Hey. Non, mais c'était-tu assez gratuit comme crochet, ça?
Un match de suspension,
je
Antoine.
Je reviens pas. Un match, moi aussi, je suis tombé.
Moi, pour le même crochet, j'ai eu deux matchs à Boston pour la même affaire. J'avais fait un crochet à Adam McQuaid. Puis c'est un petit peu la même affaire. Des fois, tu veux juste donner un crochet dans le haut du sternum du joueur à qui tu as une altercation, mais le fait que ce joueur-là relève ses bras, ben ça fait que ton crochet qui rippe et il décolle plus haut et ça finit dans le cou ou dans la mâchoire du joueur à qui tu l'assènes. Puis moi, ça m'était arrivé, comme je le disais, avec Adam McQuaid, puis je voulais vraiment pas lui donner un crochet dans les dents, mais ou dans le cou. Puis c'était ça qui était arrivé, parce qu'au même moment, il s'était relevé les bras, puis ça avait ricoché, et je l'avais pogné dans le cou, puis ça avait pogné. J'avais mérité deux matchs à ce moment-là. Fait que j'étais assez surpris quand j'ai vu seulement un match pour Greer pour ça. Fait que c'était un peu décevant.
Je sais pas si l'audition... Toi, t'avais-tu une audition téléphonique pour te défendre de ton geste avant de décoper de la suspension? Il a probablement, lui, tenté de plaider le fait qu'il voulait pas l'atteindre entre les chiclettes, mais un petit peu plus bas. Mais
ça paraissait qu'il voulait pas l'atteindre là.
T'as raison.
Du fait de sa réaction par la suite. Mais c'est sûr que, tu sais, il faut que tu sois quand même en contrôle de ce que tu fais. Mais oui, t'as une audition. Mais le problème avec ces auditions-là, c'est que souvent, tu parles avec certaines personnes qui ont jamais rien eu à voir avec le hockey, c'est qu'ils ont aucune connaissance de ce qui se passe ou du ils ont aucun vécu. Donc c'est difficile. Puis je parle pas de toute la gang, puis de il y a certaines personnes qui n'ont pas cette
c'est George qui décide quand même à la fin, hein.
Oui, mais il fait partie. Il y a une quinzaine de personnes qui donnent leur avis sur qu'est-ce qui devrait se passer. Fait que c'est lui qui chapeaute tout ça. Mais il y a certaines personnes qui ont rien à voir avec le hockey aussi, non?
Mais je pense que, c'est Antoine, je pense que il y a des gens plus haut que George ont d'affaires là-dedans aussi, là. Tu sais, je me rappelle, on va parler des gens en Ligue nationale, puis moi, je trouvais ça tellement ridicule, le règlement. Si tu saignes, c'est un 5 minutes, tu saignes pas, quand même, t'as tous les os cassés dans le visage.
4 minutes, t'as un bâton élevé, 2x2.
Comme Yann Hoffman, moi, je suis entièrement d'accord, c'est totalement ridicule. Je suis d'accord avec Maxime Lapierre, tantôt, j'écoutais Maxime en venant, là. Ça n'a pas de bon sens.
Moi aussi, un matin, j'ai dit sur une autre plateforme que, écoute, moi, si c'était pas trois matchs, je comprenais pas. Mm-hmm. Et puis, j'en reviens pas. Écoute, notre chum George, on l'a bien connu à Montréal, un bon gars, un gars très intelligent. Et on l'appelait Jungle George, mais là, c'est plus Oncle George là, avec avec la décision qu'il vient de prendre. Là.
Mais je suis pas sûr que c'est lui qui a le dernier mot ou qui est pas influencé par les gens, les dinosaures d'en haut. Là. Je suis pas sûr.
Mais il y a l'aspect financier aussi, Antoine. Quand il y a une suspension, jusqu'à quel point le syndicat des joueurs, le NHLPA, ça joue-tu, tu penses, dans le fait que les... Tu sais, somme toute, les suspensions sont quand même modestes parce qu'on sait qu'il y a un prix financier à payer pour le joueur quand il manque des matchs également, Antoine. Fait comment comment les gars plaident ça avec l'association des joueurs, puis qu'est-ce que vous revendiquez auprès de la Ligue pour gérer ça, vous autres, jusqu'à l'an passé, puisque tu étais là encore l'an passé?
Ben, tu y vas avec, premièrement, la jurisprudence, qu'est-ce qui s'est passé avant, puis après ça, tu es représenté, dans le fond, quand tu as une audience comme ça, tu as une représentation de la Ligue nationale, puis une représentation de l'association des joueurs qui fait en sorte que tu es défendu. Puis ça, c'est une avocate qui est là, puis elle défend tes propos, mais au final, on te demande c'est quoi ta version des faits, t'expliques qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé aussi à ce moment-là, puis éventuellement, ça peut jouer en ta faveur, mais quand tu rentres dans un meeting comme ça, leur décision, elle est déjà prise. Ils savent ce qu'ils vont faire. Ils font juste t'entendre pour la forme, puis pour se donner peut-être une autre idée de ta personnalité, puis de tes intentions. Mais pour moi, à chaque fois que je suis rentré dans un meeting comme ça, en fait, c'est arrivé seulement une fois. Puis la décision a été prise. Peu importe ce que j'aurais dit ou fait, c'était pris. Ça aurait pu juste peut-être empirer plus qu'autre chose, mais oui, la ligue, dans le fond, l'association des joueurs fait en sorte qu'il y a un maximum de journées d'amende que tu puisses payer via la convention collective. Donc, de cette manière-là, t'es un petit peu protégé, mais c'est sûr que t'as pas nécessairement de contrôle de ce qui se passe dans les bureaux de la Ligue nationale et s'ils ont un agenda à ce moment-là de qu'est-ce qu'ils veulent anéantir ou ce qu'ils veulent le mettre de côté. Donc pour ça, t'as pas de contrôle vraiment pas là.
Antoine, je m'en vais pas dans le champ gauche, mais une question comme ça, parce que je pense que tout le monde peut intervenir. Sais-tu, toi, c'est quoi l'affaire qui peut soulever plus l'ire d'un coach à même son équipe? Qu'est-ce qu'un joueur peut faire qui peut mettre plus son coach ou son entraîneur en joie le vert ou le contrarier au-delà d'arriver en retard de 2 minutes à un meeting? Sans l'exclure, c'est un petit clin d'œil à l'actualité de la dernière semaine. Stéphane, toi, tu
as... En passant, Antoine, t'es en retard pour ce soir, donc tu vas être suspendu pour une émission. Tu vas venir t'asseoir ici pendant toute l'heure. Mais tu pourras pas parler.
Ça va me faire plaisir de venir prendre un verre de vin avec vous autres, les gars. Puis c'est vrai que j'étais en retard, puis ça m'arrive le vendredi soir parce que des fois, je manque de batterie sur mon téléphone et il se passe beaucoup de choses. Les enfants se couchent et je suis dans une tempête, pas médiatique, mais une tempête à la maison, chose que j'imagine vous avez déjà connue par le passé.
Oui, monsieur.
Mais oui, ça arrive. Mais pour répondre à ta question, Mario, je pense que ce qui est le plus dangereux en tant que joueur, quand tu parles avec un coach, c'est de mettre son autorité en porte-à-faux. Et je m'explique, puis on s'en est déjà parlé par rapport à ça.
Oui.
Si, par exemple, un coach dit telle chose, puis que tu le mets en porte-à-faux ou tu challenges un petit peu son opinion, c'est là que le danger y est, parce que pas tous les coachs sont équipés pour répondre et accepter, dans le fond, la confrontation, si on peut dire. Il y a beaucoup de coachs, ils ont jamais vécu de confrontation. Donc, quand tu arrives puis que tu peux exprimer ton opinion qui est auto-opposée, il n'y a pas 150 coachs qui sont équipés pour pouvoir réagir. Puis moi, j'en ai déjà vu plusieurs coachs. J'ai eu un coach, il demandait de la confrontation. Kenny Hitchcock demandait de la confrontation. Il demandait d'avoir des discussions
devant tout le monde
et d'exprimer son opinion. Et lui se faisait un malin plaisir d'exprimer son opinion et de te dire pourquoi ton opinion ne fonctionnait pas et que c'est ça qu'on allait faire pour l'équipe. Mais dans un esprit d'ouverture, ben t'es capable de te rentrer là-dedans et de dire ben Kim, c'est cool parce que tu sais, mettons, je peux exprimer mon opinion. Puis ça arrivait que des fois qu'il y a un gars qui exprimait son opinion, puis il faisait en sorte que on gardait son opinion parce que ça faisait du sens ce qu'il disait, puis en tant qu'équipe, c'est ça qu'on voulait faire, fait qu'on le gardait. Fait que ça faisait en sorte
et
que.
Et tu crois que t'es capable de s'incliner si quelqu'un avait un meilleur argument que lui?
Oui.
Ah, c'est bon, puis c'est tout à son honneur.
Et c'est tout à son honneur. Et lui, il voulait que ses assistants coach soient pas des lèche-bottes, mais soient des gars qui soient capables de le confronter et de dire, regarde, là, tu vas trop loin avec certains joueurs, mets le frein. Il voulait cette confrontation-là. Fait que moi, c'est ça que, tu sais, je t'ai déjà exprimé cette période-là dans ma carrière où, quand je suis parti des Stars, j'ai fini avec Kenny Hitchcock. Puis on aurait dit que je m'attendais à ça maintenant parce que je l'avais vécu. Fait que quand je suis avec les Canucks, ben à ce moment-là, à un certain moment donné, j'ai eu une confrontation avec un coach. Puis j'avais pris une mauvaise habitude de penser que c'était d'égal à égal, un petit peu comme Ken le voulait à l'époque. Puis Ken, soit dit en passant, c'est un coach que je déteste au plus haut point, mais il avait des bonnes affaires, des bonnes attitudes, puis des bonnes idées pour faire en sorte que tu joues de la bonne manière en tant que joueur de hockey. Mais ceci étant dit, le fait que quand je suis arrivé à Vancouver, moi j'ai vécu le fait où ben j'arrivais avec cet état d'esprit-là, fait que je m'étais dit « Ah ben là, c'est correct, on peut avoir une discussion avec le coach, mais c'est pas tous les coachs qui sont capables d'avoir cette ouverture d'esprit-là. » Donc tout ça en étant très respectueux, là, tu sais, je suis pas arrivé avec mes grosses bottes, et puis je sais très bien où ce que je me situais en tant que joueur, mais j'étais vraiment respectueux, mais je pensais qu'on pouvait avoir des discussions. Donc, pour revenir à ta question, c'est primordial que, tu sais, que tu respectes ton coach, mais ce qui peut te mettre en porte-à-faux, c'est vraiment de mettre en challenge son autorité, ses idées. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail
challenger
qui peut
l'autorité.
Se faire.
Ouais,
absolument.
Non,
il y a beaucoup de travail qui peut se faire en arrière, tu sais, des rideaux, puis que t'es capable de parler avec ton coach, d'aller le rencontrer, de faire passer tes idées. Il y a beaucoup de choses qui se passent en arrière de la couverte, puis que nécessairement on prend son temps, puis qu'il faut que ça soit bien fait. Parce que si un coach se sent vulnérable à ce moment-là, ben tu t'es plus tiré dans le pied qu'autre chose.
C'est intéressant ta réponse, c'est très généreux parce qu'il y a plein de perspectives là-dedans. Puis je regardais Pierre et Stéphane t'écouter très attentivement. Puis les gars, ouais. Pierre, t'as envie de renchérir Stéphane également.
Oui, écoute, j'ai connu Jacques Martin, une méchante bonne personne, très bon coach et tout ça, mais la confrontation, il voulait rien savoir de ça. T'sais, c'était clair, net et précis que souvent des joueurs, même, ils rebondaient en plein visage, puis ils préféraient détourner le regard, puis se revirer de bord. Puis moi, je pensais de lui, le voyant à Ottawa, t'sais, derrière le banc, il avait l'air d'une personne
qui dégageait beaucoup de confiance autoritaire.
Autoritaire, mais c'est pas ça du tout. Puis ça, c'est pas contre lui, c'est juste sa nature.
Oh, ouais, mais moi,
est-ce que ça jouait contre lui juste avant, Steph?
Ben,
les gars, est-ce qu'ils manquaient de points ou d'autorité?
Ça évite, oui. Ça doit inviter les joueurs de temps en temps à le challenger parce qu'ils savent que le coach, il répliquera pas. Donc, c'est
comme un professeur d'école. À l'école, le professeur qui est trop doux, là, il se fait embarquer sur la tête puis il veut pas ça.
Exactement. Mais moi, qu'est-ce qu'on haïssait le plus? Puis j'ai des coachs qui ont haï ça. C'est quand les joueurs shake la tête. Là, tu lui fais une remarque ou tu lui dis quelque chose de constructif, puis que le joueur là, qui shake la tête en voulant dire coach, il est des patates. Là. Et si bon, j'ai vu un coach spécialement à Montréal perdre la tête à cause de ça, parce qu'il shake.
Sur le banc ou dans le vestiaire?
Sur le banc. Et puis, Claude, Jerv, c'est sûr, tu as vu souvent des joueurs se faire remontrer des reproches pendant le jeu. Et puis, quand les joueurs shake la tête. Là,
j'en ai deux en tête, hey, là, en tout cas, arrivé, là.
Hey.
Oui, vas-y donc, oui.
C'était Randy Cunningworth avec Scott Gomez. Puis je pensais que Randy allait le planter sur le banc. Là. Honnêtement, il était vert pruneau. Puis j'ai vu Randy La Douceur avec PK Subban qui avait donné un look. On était à Anaheim, je me rappelle encore. Puis quand on est rentré dans le vestiaire, là, Randy a sauté dans la face. Là. Pas physiquement, là, mais il m'a dit rien d'affaire. Ça n'aurait pas pris gros. Il était rouge comme une tomate. Puis c'est un monsieur qui était imposant. Fait que c'était...
Ouais. Fait que ça, c'est dans le vestiaire dans tout le monde. Là, que ça a lieu.
Mais qu'est-ce qu'Antoine dit, là, c'est, il a tellement raison. Tu peux être pas d'accord avec un coach. Tu peux vouloir répliquer... Mais fais ça dans son bureau. Dis, coach, peux-tu parler deux minutes? Puis là, si t'as de quoi à dire, dis-y. Mais embarrasse pas un coach devant tout le monde, parce que ça, là, ça passe pas.
Exactement.
Mais en fait, si je veux renchérir aussi là-dessus, en fait, il y a des coachs, puis ça, c'est la nouvelle génération aussi. Souvent, là, de la manière dont ils commencent un meeting, puis ça m'est arrivé avec trois coachs différents, c'est un coach qui arrive dans un meeting, puis il commence à dire, bon, les gars... Qu'est-ce qui est arrivé hier? Qu'est-ce qui a pas fonctionné? Fait que là, ce qu'un coach fait quand il commence son entrevue ou son meeting de cette manière-là, c'est qu'il demande l'opinion des joueurs. Mais là, ce qu'il fait, inconsciemment ou consciemment,
il tend un piège.
C'est à savoir. Soit il tend un piège, mais si tu me demandes mon opinion, faut que tu sois capable de la recevoir, mon opinion aussi, non? Parce que le stage est à toi. C'est toi le coach. C'est toi qui gères tout. Mais à partir du moment où tu demandes, où tu veux avoir l'implication de tes joueurs dans la direction de ton équipe, c'est important qu'un joueur qui se sente impliqué dans son équipe, ben il ait l'espace pour pouvoir exprimer son opinion. Puis ce que tu fais quand tu commences une entrevue ou un meeting comme ça, ben c'est que tu laisses le stage à tes joueurs. Mais là, si tu laisses le stage à tes joueurs, faut que tu sois capable de recevoir l'opinion. Puis ça arrive des fois que... Puis j'en ai vu plein des fois. J'ai vu des meetings, un meeting qui aurait dû prendre 5 minutes parce que le coach demandait comment on joue en zone défensive. Par exemple, quand je regarde le Canadien en ce moment, on dirait qu'il n'y a pas vraiment nécessairement... Il n'y a rien qui se passe en zone défensive. C'est donnez pas le milieu de la glace. C'est à peu près ça qu'on leur demande. Tu sais, je sais pas, puis j'ai pas d'informations à l'interne pour dire que c'est ça qu'ils demandent. Mais ça a l'air de ça. Mais nous, on a déjà eu des meetings. On commençait une entrevue. Ça devait durer 5 minutes. Ça a duré 45 minutes où chaque joueur donnait son opinion. Puis tous les joueurs commençaient à lever les yeux puis rouler les yeux dans les...
Ça a mal tourné un peu. Ça n'a pas été un meeting productif.
Non, absolument pas. Puis ça a mal tourné pour cette raison-là. Parce que des fois, tu sais, ça prend un chef, puis des Indiens, si je peux dire... Là. C'est une expression qui est pas actuelle, mais ça
on comprend l'esprit.
C'est exact, c'est ça que je veux dire. Ça prend une personne qui dirige, puis le reste qui suit, non, tu sais. Puis je m'excuse moi de mon expression, mais c'est ça pareil. Ça te prend pas 150 personnes qui dirigent l'opération. En fait, un coach, c'est ça son rôle. Mais quand il pose cette question-là, ben il se met un peu pas les pieds dans les pieds, mais il faut qu'il soit capable d'accepter cet état
de jeu. Oui, je pense que la nouvelle génération de coachs sont plus ouverts à ça. Ouais. Et beaucoup plus que les old school.
Effectivement. Un coach solide, il est prêt à prendre les pour et les contre de sa job. Il est prêt à vivre avec et à dealer avec ça.
C'est qui le coach le plus ouvert que vous avez vu, les gars? Pierre et Steph? Il y en a un qui s'est démarqué?
Moi, c'est Denis Savard.
Willy Desjardins.
Ah oh oui, c'est vrai, c'est un bon gars, un très bon gars. Moi, c'est Denis Savard, quand il était entraîneur-chef à Chicago, là, c'est lui qui était avait la meilleure communication. C'est pour ça que des fois, il me fait penser, Martin Saint-Louis fait penser à Denis Savard.
Ouais, moi, je dirais Martin Saint-Louis, là. C'est le dernier que j'ai eu, mais je pense que Martin, c'est un gars qui est...
Il était prêt à écouter?
Très, très ouvert, oui, effectivement. Qui d'autre? J'en ai tellement.
Jacques Demers?
Oui, effectivement. Jacques Demers serait un gars...
Pat Burns?
Peut-être pas.
Écoute, Non,
mais bonne, j'ai bien connu. Les gars, une dernière question, Antoine, avant qu'on le laisse aller, bien sûr, se reposer. Puis, j'haïs pas l'idée qu'on aille faire un show à cabane. C'est pas. Écoute, là, on a lancé
quoi. C'est une excellente idée, les gars.
Ouais, je pense qu'on pourra faire, on pourra avoir bien du fun avec ça. Puis là, à dévier sur cette parenthèse-là, j'oublie ma dernière question. Non, non, elle me revient. Antoine, la question ce soir, dans combien de temps, dans combien d'années, le Canadien va revenir en série selon toi? Et on termine avec ça.
Selon moi, le Canadien devrait avoir encore une autre saison de misère. C'est-à-dire, pas nécessairement avoir un objectif de faire les séries éliminatoires, d'essayer de ramasser un autre bon choix. Puis après, un autre bon choix dans le top 10, top 5, idéalement. Puis après ça, enclencher la première, la deuxième, puis essayer d'améliorer son sort. Parce que le problème, mais en faisant ça, on veut quand même qu'on garde un club qui travaille fort avec une éthique de travail. Moi, c'est ça que je vois. Tu sais, quand je vois des gars qui ont une chance de gagner contre les Bruins de Boston, ou du moins qui se battent le soir après soir, même si tu finis dans la cave, si tu as cette attitude-là, pour moi, c'est endurable encore pour une autre saison. Puis par la suite, tu commences à essayer de faire des acquisitions, puis de construire ton club d'une certaine manière pour essayer de rentrer en série. Fait que dans un objectif de 2-3 ans, tu recommences à rentrer en série et tu arrives avec un Nick Suzuki qui est à fleur de l'âge, qui est à 26, 27, 28 ans, où il est dans son, comme on dit, son meilleur joueur, dans son meilleur, puis qui est capable de faire de la magie sur la glace. Puis je pense que tu peux pas faire ça si t'es pas capable d'améliorer ta position devant le filet. Puis aussi avec sur tes ailes, parce qu'en défense, en ce moment, on commence à avoir un surplus. Fait que c'est ça qui est intéressant. Tu veux avoir des surplus à toutes les positions.
T'as des actifs peut-être à échanger, ouais, c'est ça, éventuellement. Ouais, ouais. Ben, c'est bon, Antoine. Écoute, tu m'offres, je pense, je vais le mettre dans les choix de réponse. J'y avais pas pensé. J'étais trop optimiste. Une autre saison de misère dans le choix de réponse ce soir en tribune téléphonique. Est-ce que, tu sais, dans ce que les gens souhaitent et ce qu'ils anticipent. Alors, c'était bon. Puis, je pense que les gens, il y a beaucoup de gens qui ont apprécié les dernières minutes. Puis là, Stéphane, il nous dit à quand un podcast des trois amigos. Là, je sais pas si ça va être trois ou quatre. Les trois amigos à la cabane. Les quatre amigos. Mm-hmm. On cherche le titre. Ça serait super, dit-il. Bonne soirée, les boys. Salut, Stéphane. Merci d'être à l'écoute. Antoine, un gros merci d'avoir été là. Et puis, on regarde notre calendrier, puis dis-nous quand ça coule.
c'est bon. Bonne soirée, la gang. Puis ça va couler au mois d'avril. Vous pouvez en être certain.
OK. On regarde ça. On regarde le kilométrage. Il n'y a rien là.
Hey, c'est à côté. C'est
j'allais au cégep à Jonquière, moi. Puis je revenais sur le pouce. Puis j'avais pas les moyens de me payer l'autobus. Fait que, y aller avec.
Je te donnerai un lift.
Alright.
Ça serait vraiment cool.
Salut, mon Rooster. Salut, bonne mon soirée. Antoine. Attention à toi. Bye-bye. Bye-bye.
Les amateurs de sport.
C'est 23.